La suite des discussions à Bougival, il s'agirait d'une journée décisive à l'issue de laquelle on saura si un accord est possible ou non. Les associations peinent à se relever de la crise subie en mai 2024. Deux études menées par l'ISEE et l'AFD révèlent que plus d'une association sur deux a été gravement affectée par les événements. Fabrice Dufresne, le directeur de l'IEOM, était ce midi l'invité du magazine Transparence. L'occasion pour lui de revenir sur le rapport annuel économique 2024 sur la Nouvelle-Calédonie que vient de publier l'Institut des missions d'outre-mer. Les sept membres de l'équipage du bateau intercepté avec 2,5 tonnes de cocaïne ont été mis en examen et écroués. Le navire avait été arrêté à près de 400 milles nautiques de Nouméa le 25 juin dernier. Du sport, il y en aura ce week-end. Sur le territoire, par exemple, les amateurs de course hippique seront servis avec la Bouraille Cup. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. À la une, les négociations sur l'avenir institutionnel ne sont pas terminées et elles doivent se poursuivre encore une journée à Bougival, Jean-François Baudin.
Et selon nos informations, il pourrait d'ailleurs s'agir d'une journée décisive à l'issue de laquelle on saura si un accord est possible ou non. Rappelons que les délégations discutent autour d'un document préparé par l'État pour faire le point sur les avancées, mais il reste encore plusieurs sujets de blocage, ce qui justifie la prolongation de cette séquence. Quoi qu'il en soit, les délégations politiques calédoniennes quitteront l'hôtel Hilton à Bougival samedi en fin de journée. En fonction de cette journée qui pourrait donc être décisive, les discussions pourraient se poursuivre au ministère des Outre-mer dimanche et lundi. On rappellera que le président de la République a confirmé sa volonté de clôturer lui-même les travaux, même si l'on ne sait toujours pas si ces discussions déboucheront sur un projet d'accord.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, notre question du jour. La durée des négociations sur l'avenir institutionnel qui se poursuivent depuis plus d'une semaine à Bougival est-elle selon vous un bon signe? Si vous pensez que c'est un bon signe, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et la réponse à notre question d'hier, à l'unanimité, les auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'avec 34 médailles, dont 7 en or pour une délégation restreinte de 31 athlètes, les Cagous ont réussi leur mini-jeu à Palau. Les associations grandes victimes, elles aussi, des exactions de mai 2024. L'ISEE et l'AFD ont mené deux études sur l'impact de la crise de l'année dernière sur le tissu associatif. Et le constat est assez alarmant. Une première étude a été menée par l'ISEE entre novembre et décembre 2024, soit environ 6 mois après les exactions. Le tissu associatif, déjà fragilisé depuis de nombreuses années, s'est révélé être un des plus touchés par la crise. Près de 4 associations sur 5 ont dû suspendre et ou réduire leurs activités. Véronique Ujicas, chef du service conjoncture et diffusion à l'ISEE, révèle que les principales conséquences de ces événements sont d'ordre financier, mais aussi organisationnel.
On voit qu'il y a un impact différent selon les associations, impact qui est beaucoup sur les ressources humaines des associations. Elles ont perdu 9% de leurs effectifs salariés, elles ont perdu énormément de bénévoles, énormément d'adhérents, de bénéficiaires. Et puis il y a le pendant financier avec des recettes qui ont aussi considérablement diminué. Donc globalement, sur l'ensemble des associations employeuses, c'est de l'ordre de 6 milliards de recettes auxquelles elles s'attendaient en début d'année, qu'elles n'ont donc pas eu en fin d'année. Donc en fait, des recettes à tous les niveaux en baisse qui fragilisent encore plus les associations.
Les conséquences diffèrent selon le domaine d'action des associations. Celles spécialisées dans le sport, le loisir, la culture ou la santé ont été grandement impactées. Le recours à leurs services a baissé pour la plupart des associations à près de 70%. À l'inverse, la demande de services a augmenté pour 20% des associations, notamment celles intervenant dans le domaine de l'action sociale. Une seconde étude a été commandée par l'AFD en fin d'année dernière. Cette dernière souligne le rôle socio-économique des associations sur le territoire. Leur disparition serait donc catastrophique, mais pour autant, plusieurs recommandations ont été données pour redonner souffle et perspective au secteur, explique Marie-Madeleine Lecâtre, gérante du bureau d'études Alter Conseil, qui a mené l'étude de l'impact de la crise de mai 2024 sur les associations pour l'AFD.
Il y a des enjeux de financement à très court terme pour leur survie, parce que le risque, c'est des disparitions d'associations, et des disparitions d'associations sont des disparitions de services rendus à la population. Donc les leviers, c'est avoir davantage de lisibilité sur le volet financier, y compris de la part des collectivités. Un des leviers clés, c'est aussi la représentation des associations. Et le secteur souffre aussi d'une absence de données, d'études collectées, centralisées, et on souffre d'une connaissance approfondie de la réalité du secteur associatif. Et s'il y a trois sujets sur lesquels il faudrait effectivement insister, c'est les urgences, là en termes de soutien au tissu associatif, c'est accompagner la structuration du secteur associatif pour avoir une visibilité fine du secteur associatif, et c'est considérer les associations comme des acteurs à la fois de la réflexion sur l'avenir institutionnel et des acteurs de terrain pour la reconstruction du pays.
Bien que les associations représentent environ 5% de l'emploi salarié en Nouvelle-Calédonie, elles dénoncent une invisibilisation de la part des institutions. Au travers du collectif des associations de Nouvelle-Calédonie, elles appellent à une reconnaissance de leur utilité et de leur impact. Thibaut Bizien est l'un des coprésidents du collectif.
Ça fait un an qu'on demande un dispositif d'aide spécifique aux associations, on ne l'a pas obtenu. Ça fait 10 ans qu'on demande des réformes très spécifiques parce qu'on connaît très bien les solutions liées à nos problèmes et qu'on les propose. Et on voit bien qu'entre les deux études, celle de 2014 et celle de 2024, on a les mêmes constats, les mêmes problématiques et pas de solutions qui ont été apportées. Donc il y a un manque de portage politique sur les réformes essentielles pour le monde associatif. Et donc on recherche aujourd'hui, hein, clairement, c'est le message, aidez-nous à vous aider, puisque nous sommes là pour vous accompagner, pour compléter, voire assurer une partie du service public. On a des solutions, on a besoin de personnes pour nous aider à mettre en place des délégations de service public, des conventions pluriannuelles, un statut pour les bénévoles, la loi sur l'économie sociale et solidaire qui devrait arriver mais qu'on n'a que trop attendu. Et puis bien sûr, pourquoi pas une chambre consulaire sur l'économie sociale et solidaire. Et donc dans l'idée, on a vraiment besoin de cette reconnaissance et de cet accompagnement.
Les associations interrogées durant ces études expriment des doutes quant à leur capacité à surmonter les difficultés auxquelles elles font face. 52% font part de leur incertitude et 10% sont même pessimistes quant à leur avenir. Un choc d'une ampleur sans précédent pour l'économie calédonienne en 2024. C'est ce que révèle le rapport 2024 de l'Institut d'Outre-mer. Il a été détaillé ce midi par Fabrice Dufresne, le directeur de l'IEOM, qui était l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Jean-François Baudin.
Les émeutes de mai 2024 sont intervenues dans un contexte où l'économie calédonienne était déjà affaiblie et les émeutes ont amplifié ces crises, explique le rapport de l'IEOM, qui évalue la chute du PIB entre 10 et 15%. Et Fabrice Dufresne s'est livré à quelques comparaisons qui démontrent l'importance de cette baisse.
Cette prévision de croissance pour l'année 2024, elle se situe entre -10 et -14%. Quand on remonte sur l'histoire de l'économie calédonienne, il faut remonter à 1962 pour retrouver une baisse de produit intérieur brut de 15%. C'est énorme déjà à l'époque. Sur l'ensemble des Outre-mer, si on fait un petit comparatif, en fait, l'économie qui a le plus été impactée dans les Outre-mer, c'est celle de la Polynésie française qui a perdu 7% de croissance pendant la Covid. Et puis, si on fait des comparaisons internationales, donc la perte de croissance de la France pendant la Covid, c'était à peu près -7%, -25% pendant la Première et Seconde Guerre mondiale, et plus récemment, quand on voit le conflit en Ukraine, on arrive sur des pertes de PIB entre -25 et -30. Donc c'est vraiment en temps de guerre où on atteint des chiffres assez considérables.
La forte baisse du produit intérieur brut, cela signifie la chute de l'investissement des ménages et des entreprises qui est estimée à -20 ou -25%, mais aussi une forte baisse de la consommation qui se situe entre -8 et -10%. L'IOM pointe aussi l'effondrement de l'indicateur du climat des affaires qui atteint au deuxième trimestre 2024 son plus bas niveau jamais enregistré. Autre indicateur significatif, celui de l'emploi privé avec la destruction de près de 13 000 emplois, mais il y a aussi des pertes d'emplois dans le public, souligne Fabrice Dufresne, qui rappelle les dispositifs de chômage spécial exaction et de chômage partiel qui ont eu un rôle atténuateur. Malgré cela, quelques 130 dossiers de surendettement ont été déposés depuis le début de l'année 2025, alors qu'habituellement, il y en a une centaine par an. Une crise sans précédent qui frappe tous les secteurs, et notamment celui du nickel, même si le directeur de l'IEOM voit un petit frémissement.
Les chiffres viennent de sortir, c'est plutôt encore un signal positif, c'est que l'extraction de minerais, quand bien même il y a quelques difficultés observées sur certains sites, elle reprend depuis le début de l'année. Alors, bien entendu, lorsqu'on les compare par rapport à l'année précédente, sur les 12 mois précédents, on est toujours en baisse. Mais cette extraction de minerais progresse, ça c'est une première chose. La deuxième chose aussi, c'est la production métallurgique, donc la production de la SLN et de l'usine du Sud, PRNC. Et là, on observe sur les 5 premiers mois de l'année, une production métallurgique qui progresse de manière sensible et plus particulièrement celle de PRNC qui semblerait retrouver ses niveaux de production d'avant-crise.
Le secteur bancaire a tenu son rôle pour répondre à la crise, affirme le directeur de l'IOM, mais il rappelle que les banques ont pourtant été fortement impactées, avec notamment la destruction de 13 agences sur 100.
C'est vrai que les banques ont rapidement joué le jeu, par le biais d'ailleurs qu'elles l'avaient déjà fait pendant la Covid, ce sont les reports d'échéances de crédit sur 6 mois, sur 3 ou 6 mois jusqu'à la fin de l'année 2024. Donc à peu près un tiers de l'encours des crédits, autour de 800 milliards, a fait l'objet en fait de reports d'échéances. Donc elles ont pleinement joué leur jeu, mais au final en fait elles ont dû faire face à une perte de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires dans le secteur bancaire, c'est le PNB, le produit net bancaire, donc une perte de 15% de leur PNB. Et puis, elles ont dû faire face aussi à cette fragilité, à cette vulnérabilité des acteurs économiques, tant entreprises que particuliers, avec une augmentation du coût du risque. Donc, il est calculé ou apprécié à partir du taux de créance douteuse. C'est le taux de crédit qui sont à piller, qui arrive à 7,6% à fin 2024. Donc, baisse du PNB, hausse du coût du risque, inévitablement, ça impacte de manière significative sur le résultat net, puisque l'ensemble des banques des 4 banques calédoniennes affichent pour la première fois une perte cumulée de 5 milliards.
Fabrice Dufresne qui tient à préciser que les banques calédoniennes sont extrêmement solides et que leur situation permet d'amortir ce choc. Il relève que l'IOM a aussi pris sa part pour aider l'économie calédonienne et il souligne aussi le soutien massif de l'État.
Chaque année, les transferts publics pérennes de l'État pour mettre en œuvre leurs compétences, d'une part, mais aussi contribuer à la mise en œuvre des compétences du territoire, c'est à peu près 200 milliards de francs pacifiques par an, de manière pérenne. Donc c'est rajouté le soutien massif de l'État, à peu près 160 milliards. Donc au total, c'est 360 milliards pour l'année 2024 qui relève du soutien de l'État. Donc ça représente à peu près un tiers du produit intérieur brut.
Ce qui permettra une relance de l'économie calédonienne, c'est le retour de la confiance, souligne le directeur de l'IOM. Et à ce titre, les actuelles négociations politiques sont scrutées avec beaucoup d'espoir. Et il a été interrogé sur les prévisions de croissance de l'économie calédonienne.
C'est difficile de prévoir ou faire la prévision économique sur la capacité de l'économie calédonienne à rebondir. Elle l'a déjà faite sur des décennies précédentes. J'ai juste un chiffre en tête. En 1988, juste après les événements, l'économie calédonienne a redécollé à hauteur de 15%. Donc voyez l'ampleur de ce que la Calédonie peut tirer des conséquences. 88, c'était une structure d'économie un peu différente de celle d'aujourd'hui. Et quand on regarde sur l'histoire de la croissance calédonienne sur les 30 dernières années, on voit que l'année 2010, c'est l'année où la Calédonie a pu sortir une croissance de 7%. Donc il faut être mesuré sur cette capacité. Elle existe, de rebond économique de la Calédonie, mais d'une telle ampleur qu'on avait connue dans les décennies précédentes, ça sera plus compliqué à atteindre ce niveau-là.
Mais il est possible de retrouver de la croissance quand même dans les années qui viennent.
Oui, puisque juste après la crise Covid, l'économie calédonienne a rebondi en 2022 à hauteur de 3,5% de croissance. Ça s'est un peu effrité en 2023 de plus 2,8%. Donc elle a une capacité, elle a une structuration, elle a donc des emplois aussi compétents, toutes ces compétences qui ont été maintenues au niveau des entreprises, qui lui permettraient de rebondir assez rapidement.
Une interview de Fabrice Dufresne, le directeur de l'IOM, qui sera rediffusée dans son intégralité dimanche soir après notre journal de 17h45. Vous pouvez aussi la retrouver en audio et vidéo sur notre site internet.
Ce matin, dans Vous avez un avis, une auditrice a évoqué le retrait de NBM du processus de rachat de PRNC. Aucune information en ce sens n'a été communiquée. Au 30 juin, la clause d'exclusivité est arrivée à échéance. Cela ne met pas fin aux discussions pour autant, d'autant plus qu'un seul industriel s'est montré intéressé pour racheter les actions de Prony Resources. Les négociations semblent donc se poursuivre à Paris entre l'État et NBM. Il est 18h passé de 1 minute. Première pause avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire et notamment l'actualité judiciaire.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Au Château Royal, du lundi au vendredi et jusqu'au 31 juillet, choisissez votre formule déjeuner de l'escale à 3900 francs et bénéficiez d'une entrée à moitié prix au parcours aquatonique. À offrir pour en profiter dans la journée ou à prévoir en amoureux, vous pourrez utiliser cette offre jusqu'au 31 août 2025 à l'Aqua Royal Spa. Offre non cumulable, valable pour une seule entrée. Informations et réservations, restaurant l'escale Château Royal, 23 01 30.
Dimanche 13 juillet, rendez-vous dès 10h au fort de Terrain-Bas pour le Caledonian Show 2025. Au programme, des expositions, des promenades à cheval et en véhicule d'époque et à 14h30, le nouveau spectacle historique interprété par plus de 100 figurants en costume. Réservation sur étiquette.nc et plus de renseignements sur www.fort-terrainbas.com.
Info soir, Léana Colombo.
Le Conseil d'État confirme la suspension du commissaire Henri Drouha. Il avait été saisi par l'ancien directeur de la police judiciaire qui demandait l'annulation de l'arrêté de novembre du ministre de l'Intérieur de l'époque, soit Gérald Darmanin, qui le suspendait provisoirement après un signalement et l'ouverture d'une enquête de l'IGPN. Dans l'arrêt qu'il a rendu, le Conseil d'État estime que les faits reprochés sont d'une vraisemblance et d'une gravité suffisante pour justifier la mesure de suspension temporaire. Le Conseil d'État s'appuie sur le rapport de l'IGPN qui met en avant des témoignages selon lesquels Henri Drouha avait fait preuve de violence verbale et physique à l'encontre d'agents dans l'exercice de ses fonctions. Il aurait également contesté l'autorité de sa hiérarchie et interdit à ses collaborateurs d'échanger des informations judiciaires avec les agents venus en renfort de métropole durant la période de violence débutée en mai 2024. Justice toujours, la chambre d'instruction siégeait ce matin sur le dossier du trafic international de cocaïne. Elle devait statuer sur la demande de remise en liberté de l'un des membres d'équipage du bateau arraisonné le 25 juin dernier à près de 400 000 nautiques de Nouméa lors de la saisie record de 2,5 tonnes de cocaïne. Jean-François Baudin.
Les 7 membres d'équipage ont été mis en examen et écroués. 2 Portugais, le capitaine et le mécanicien et 5 Équatoriens. L'un des membres sud-américains a demandé ce matin être remis en liberté. Sa demande a été refusée. Le parquet avait requis son maintien au camp Est pour éviter toute fuite du suspect en indiquant que c'était une affaire hors norme avec des ramifications transfrontalières. La procureure a indiqué que l'instruction devait chercher les producteurs en Amérique du Sud, mais aussi les commanditaires. Elle fait aussi état de points de contact sur le territoire car les trafiquants avaient en effet prévu de s'arrêter à Nouméa pour effectuer des réparations avant de se rendre en Australie. Le trafiquant international présumé est donc reparti au camp Est sous une escorte importante du RAID. Ce matin, il a lu un mot en espagnol qui a été traduit à la cour. Il a déclaré en pleurs être terrorisé par cette procédure, notamment en raison de la barrière de la langue.
La lutte contre les taxis clandestins s'intensifie en Nouvelle-Calédonie. Plusieurs opérations de contrôle ont été menées ces dernières semaines sur réquisition du parquet. Et Charles Coulson, avec des résultats significatifs.
Oui, à Bouraille, le 8 juillet dernier, une opération du COTAF, le Comité Opérationnel Territorial Antifraude, a permis le contrôle de 41 véhicules, parmi eux 34 assurés du transport de personnes. Résultat, une dizaine d'infractions au code de la route et 6 procédures ouvertes pour travail dissimulé. Des conducteurs exerçaient illégalement l'activité dite de taxi-mil, un service de transport rémunéré sans autorisation, facturé 1000 francs le trajet. 2 semaines plus tôt, à Nouméa, une conductrice a été interpellée près du collège de Magenta. Présentée comme simple covoitureuse, elle assurait en réalité un ramassage scolaire non déclaré contre rémunération. Les autorités rappellent que l'exercice d'un transport rémunéré sans déclaration constitue un délit passible d'un an de prison et de 547 500 000 francs d'amende. Les annonces faites à la radio servant à promouvoir des activités clandestines seront également soumises à des contrôles plus rigoureux.
Et dans un autre registre, ce matin à Nouméa, la police nationale a mené une opération de sécurisation renforcée autour du groupe scolaire Escoffier, Lapérouse et Baudoux. Lors du contrôle, un individu porteur d'un couteau et d'une bombe lacrymogène a été interpellé et fait l'objet de poursuites judiciaires. Partons du côté de la province Nord avec cette belle opportunité pour les étudiants de l'Université de Nouvelle-Calédonie. Un stage dating était organisé au campus de Bako, Axel de France.
Leur CV en main, une 60aine de jeunes ont pu rencontrer les représentants des différentes directions de la province Nord et tenter de décrocher un stage. La matinée s'est déroulée en 2 temps. Une partie consacrée aux élèves de 3e année qui doivent réaliser un stage pour valider leur cursus. Et une seconde partie pour les premières années qui, eux, s'entraînaient à passer un entretien. Le bilan de cette matinée est plutôt satisfaisant selon Laïda Roy, responsable pédagogique sur le campus de Bakou.
Ce que j'observe, c'est que certains entretiens prennent du temps. Moi, j'ai tendance à penser que c'est plutôt bon signe. J'ai entendu certains étudiants un peu débriefer là dans le couloir. Et j'ai trouvé qu'en fait, ça se passait plutôt bien. Ça a l'air de bien se passer. Mais c'était un peu l'idée, encore une fois. Hein. L'idée, c'est de faire de l'apprentissage par l'expérience, de se plonger un peu dans ce bain de stress. Et puis, tout simplement, que les étudiants se rendent compte qu'ils en sont capables, que rien de dramatique ne se passe, même si au départ, on est très stressé. Et puis voilà, d'acquérir un petit peu d'expérience.
En parallèle, des ateliers étaient proposés par le Bureau Information Jeunesse et Services des Bourses de la Province Nord. Les étudiants ou futurs étudiants y trouvent des informations sur les aides et accompagnements dont ils peuvent bénéficier pendant leur cursus.
L'actualité aérienne, le trafic une nouvelle fois perturbé entre Nouméa et Singapour. Les vols SB740 et SB741 prévus ce vendredi sont retardés. En cause, une contrainte d'équipage de la compagnie iFly, auprès de laquelle Air Calin a affrété un Airbus A330-300 durant la maintenance de ses appareils A330neo. Le vol SB740 qui devait partir de Nouméa à destination de Singapour à 1h45 cette nuit est finalement parti un peu avant midi. Le vol SB741 au départ de Singapour, initialement prévu à 11h, partira finalement ce soir à 19h30 et atterrira donc demain matin à 7h25 à Tontouta. Air Calin rassure les passagers par voie de communiqué. En dehors de ces retards, l'ensemble du programme de la compagnie ce vendredi sera opéré normalement. Et l'actualité maritime, avis aux usagers du Betticho, la fin du carénage du bateau est repoussée d'un jour. Les voyages reprendront finalement le mercredi 16 juillet au lieu de mardi. La rotation vers Marée et Lifou est donc décalée à mercredi. En cause, une intervention technique imprévue qu'il faut effectuer. La pièce nécessaire devrait arriver demain d'Australie. Tous les passagers concernés sont automatiquement reprogrammés sur ce nouveau voyage. Nous sommes à la veille d'un week-end de 3 jours, puisque lundi, vous le savez, ce sera le 14 juillet, jour de la fête nationale qui donnera lieu à de nombreuses manifestations et cérémonies dans plusieurs communes du territoire. Lundi matin à 9h, les Calédoniens pourront bien sûr assister au traditionnel défilé militaire sur l'avenue de la Victoire Henri Lafleur. Nous reviendrons sur les manifestations organisées sur tout le territoire dans nos éditions du week-end. Et passons à l'actualité festive justement de ce week-end. Une actualité largement dominée par les festivités du 14 juillet, vous l'avez compris, mais pas uniquement. Les Calédoniens pourront par exemple, Charlotte Coulson, retrouver demain la mythique course de pneus qui est de retour à Païta.
Par groupe de 4, en famille ou entre amis, vous pourrez vous amuser de 8h à midi dans une ambiance festive au programme de course et un concours du plus beau pneu. Et c'est l'association Témoignages d'un passé qui organise l'événement. Jennifer Chalandon, la chargée d'accueil communication de l'association, nous en dit plus sur la matinée de demain.
La course de pneus sera organisée sur le parking du centre commercial Hyperruche de Païta. Ça va consister en 2 courses, donc c'est avant tout des courses à faire en famille, mais c'est possible de les faire entre amis. Il faut composer des équipes de 4. Il y aura une course de relais et une course d'obstacles. Donc là, le but, c'est vraiment avec son pneu de faire le parcours et le faire le plus rapidement possible. On est en partenariat avec le centre commercial Hyperru et SVIA Pneus qui va nous fournir les pneus pour la course. On va également organiser pour cette matinée un concours du plus beau pneu customisé. Donc là, le but, c'est que les familles qui viennent avec leurs pneus puissent le décorer comme ils le souhaitent. Et à la fin, celui qui aura le plus beau repartira avec un lot. Ils peuvent préparer en amont chez eux leurs pneus et venir avec. Mais sinon, nous, on peut fournir les pneus pour l'occasion.
Et pour plus de sécurité, des chaussures fermées et un pantalon sont recommandés. Les inscriptions sont gratuites et se feront directement sur place, sur le parking de l'Hyperru de Païta.
Et Toyota donne rendez-vous au public à la Maison des Artisans pour son grand salon annuel. Le salon se tient jusqu'à dimanche. Demain, il sera ouvert de 8h30 à 18h et dimanche de 8h30 à 17h. Et puis la deuxième édition du Calédonian Show revient ce dimanche au Fort Teremba.
Et de 10h à 16h30, le public est invité à revivre le passé calédonien à travers des balades en véhicules anciens, des tours à cheval, des expositions et des animations pour toute la famille. Un moment fort est attendu à 14h30 avec un grand spectacle vivant réunissant une centaine de figurants en costume d'époque. Ils retraceront l'histoire du bagne, de la présence américaine et de la brousse calédonienne.
Ce dimanche, ce sera aussi le traditionnel marché de mamie à Farino. De nombreux stands sont à retrouver de 8h à midi sur la place de la mairie. Faisons Faisons maintenant le point sur les festivités à l'occasion de la fête nationale.
Et on commence avec la ville du Mont d'Or qui organise sa traditionnelle fête du sport et des associations. Le premier rendez-vous est donné le dimanche 13 juillet de 17h à 20h au parc Bloc de Plume. Et puis le lundi 14 juillet de 8h à 15h au complexe culturel et sportif Victorin Boeva à Boulary. La ville de Nouméa organise pour sa part une retraite au flambeau le dimanche 13 juillet. Le cortège partira de la place de la Moselle pour rejoindre à la place des Cocotiers. Le rendez-vous est à 18h pour la distribution des 6000 lampions au niveau du mémorial américain et le départ du défilé à 19h. Après...
Et l'actualité est dans la région avec cette mésaventure dont on se souviendra, un jeune surfeur contraint de passer la nuit sur un îlot isolé. Les faits que nous raconte Jean-Pierre Zajac se sont passés dans le nord du New South Wales.
Darcy Diffols, 19 ans, s'était mis à l'eau mercredi en fin d'après-midi dans l'espoir de surfer quelques vagues avec son Malibu Longboard au large de la plage où il habite avec ses parents. Le vent était presque nul, mais de forts courants marins l'ont toutefois entraîné vers le large. Après avoir dérivé pendant des heures, il a finalement atteint Solitary Island, un escarpement rocheux composé de quelques petits îlots inhabités, situés à une douzaine de kilomètres des côtes où il a passé la nuit. Inquiet de ne pas le voir rentrer au logis, ses parents avaient alerté les autorités et plusieurs bateaux des services de sauvetage en mer se sont lancés à la recherche du malheureux qui a finalement été retrouvé hier matin, sain et sauf, mais transi, après avoir passé la nuit à la Belle Étoile. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
18h13, seconde pause avant de passer à l'agenda sport de ce week-end.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Chez Decathlon, le bleu est plus qu'une couleur. C'est la promesse du meilleur rapport qualité-prix. Du textile aux équipements, découvrez notre large sélection de produits bleus pour tous les sports. Decathlon, le meilleur du sport au meilleur prix.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France. RRB, première radio d'information.
La fin de votre journal Le Sport avec Lana Colombo.
Et ouvrons l'agenda des sports du week-end avec le Tour de France.
Air Calin vous présente le Tour de France. De Nouméa à Paris, 3 vols par semaine via Singapour et 3 vols directs via Bangkok à partir de 191 000 francs TTC.
Et Jean-François Baudin, 7e étape ce soir entre Saint-Malo et le mur de Bretagne, guerre les dents.
Oui, une étape de puncher pour débuter ce séjour du peloton en Bretagne avec un final explosif et redoutable puisque les coureurs termineront par 2 ascensions du mur de Bretagne. Le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, prévient les attaquants qui sont trop pressés. Le sens tactique y est presque aussi décisif que la force physique. Samedi et dimanche, 2 étapes de plat attendent le peloton.
En rugby, le 15 de France continue ses test matchs sur le sol néo-zélandais.
Avec un deuxième rendez-vous demain à 18h. 5 contre les All Blacks. Samedi dernier, les Bleus remaniés s'étaient inclinés de peu 31-27. Le sélectionneur Fabien Galthié a procédé à 9 changements dans son 15 de départ. 4 des 5 finalistes du top 14 seront alignés. Pierre-Louis Barassi, Nicolas Deporter, Joshua Brennan et Pierre Beauchaton. C'est Gaëtan Barlow qui sera capitaine.
Les sports mécaniques avec le Grand Prix moto d'Allemagne ce week-end. Les essais libres démarrent ce soir. Les qualifications auront lieu demain soir avant la Sprint Race à minuit. Dans la nuit de samedi à dimanche. Et enfin, le Grand Prix dimanche ce soir à 23h.
En tennis, on suivra les demi-finales et les finales de Wimbledon. Chez les hommes, Yannick Sinner défie Novak Djokovic et Carlos Alcaraz affrontera Taylor Fritz en demi-finale. Chez les dames, finale inédite entre Amanda Anisimova et Iga Swiatek. Enfin en volée, Sabina Wegené et l'équipe de France continuent la troisième phase de Ligue des Nations au Japon. Après avoir perdu contre le pays hôte et le Brésil ces derniers jours, elles affrontent ce soir la Bulgarie. Dimanche à 13h, elles joueront face à la Corée du Sud.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Bouraille, c'est le 99.
Et le sport sur le territoire, avis aux amateurs de course hippique. La Bouraille Cup est de retour, Léo Fichou.
Oui, et ça se passe ce samedi à Ténée, après l'annulation de l'édition 2024 suite aux émeutes. Ce rendez-vous incontournable en Nouvelle-Calédonie est effectivement de retour. Un rendez-vous qui promet du spectacle avec 5 autres courses au galop, une course au trot et une course également de stock. Fabrice Gossoin, président du comité hippique de Bouraille.
La Bouraille Cup, c'est une course qui a été mise en place il y a plus d'une vingtaine d'années par M. Eugène Hernu. Aujourd'hui, c'est 1400 mètres. Un événement phare chaque année à Bouraille. Cette année, ça c'est une des deux courses la plus dotée sur 1,5 million. Ça reste quand même une classique C1. Il n'y en aura que deux cette année. Celle-là et puis la Casino Coupe Clark. Alors, ça fait que ça réunit vraiment les très bons chevaux, les nés élevés en Calédonie. Cette année, nous en avons 7 inscrits dans la Legacy's Girl qui avait gagné en 2023, qui remet son titre en jeu. Elle est inscrite encore. Et voilà, ça sera vraiment les meilleurs chevaux de 1400 mètres qui seront là.
Rendez-vous donc ce samedi dès 10h30 sur l'hippodrome de Ténée pour la Bouraille Cup. De nombreuses animations seront également proposées toute la journée. L'entrée est à 500 francs, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.
On reste du côté de Bouraille puisqu'il y a d'autres rendez-vous sportifs ce week-end, Jean-François Baudin.
Pro Event s'organisera demain au coucher du soleil le Trek Érythrine, un trail caritatif qui a pour objectif de soulever des fonds pour le Kiwanis Club Érythrine de Bouraille. Deux parcours sont proposés, 6 et 12 km. Et dimanche, deuxième événement de Pro Events, la BCI des Vassans, cette fois-ci pour les vététistes. Première étape du Sud Tourisme VTT Pro Tour avec 3 tracés, 15, 25 et 40 km.
Dimanche également, le motocross reprendra ses droits à Bouraille sur la propriété Persan au CAP avec la première manche de course sur prairie. 49 pilotes seront engagés. Les essais libres sont prévus entre 8h et 9h35. Puis les trois manches vont s'enchaîner jusqu'à 15h30. Il y aura du foot et du futsal ce week-end.
Le futsal, ce sera la 8e journée de ce sera la 8e journée de Super League. Deux matchs demain après-midi et deux matchs aussi dimanche, tous disputés au stade Numadélé. Demain à 15h, Gaïcha affronte Yengensport. À 17h30, Cougnier sera opposé à Lossy. Dimanche, Nejeu défiera Magenta à 10h et à 13h, Horizon Passau jouera contre Tigasport. En futsal, c'est la reprise à l'IFU avec 4 matchs demain sur le plateau de Mou. La première rencontre aura lieu à 9h entre l'AS Jeu et le FC Lito Gaïcha. Sur la Grande Terre, 5 matchs demain à la salle Omnisport de Lens-Vata, 2 à la salle de Wailou. Enfin, les deux derniers matchs seront disputés dimanche matin à la salle Sadio de Coné.
Enfin, un mot de cyclisme sur piste. Ce soir au Vélodrome de Magenta, le comité régional de cyclisme organise une compétition pour les jeunes espoirs. 200 mètres lancés et omnium au programme pour les U15, U17 et U19. 18h19, on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et météo, c'est avec vous Pierre.
En effet, des nuages circuleront par moments cette nuit sur la façade ouest et aux îles Loyauté, entraînant quelques ondées localement. Ailleurs, le ciel sera souvent dégagé. Sur Belep et la pointe nord, le vent soufflera de secteur sud-est autour de 12 nœuds. Sur le reste du territoire, il sera faible, de sud à sud-est, oscillant entre 5 et 10 nœuds. Les températures minimales baisseront, elles oscilleront généralement entre 15 et 21 degrés, avec des valeurs plus fraîches de 12 à 14 degrés dans l'intérieur de l'île et à Marais. Demain matin, une bande nuageuse touchera le sud-ouest et l'extrême sud. Des averses se déclencheront en fin de matinée sur la pointe sud et l'île des Pins. Partout ailleurs, le soleil dominera le ciel. Ça fait plaisir, le vent restera faible, atteindra autour de 5 à 10 nœuds de sud-est sur la pointe nord.